Restons courtois, Richard de Sèze.
Et pour cette deuxième partie, nous sommes rejoints par Maître Varro, qui est eurodéputé RN et qui est à Bruxelles en ce moment et qui va pouvoir discuter avec nous donc de l'excellent rapport que vous avez fait paraître, Nicolas Bauer, sur la manière dont l'Union européenne gère les expulsions. C'est un travail donc produit par le Centre européen pour le droit et la justice. Pourquoi est-ce que ce Centre européen pour le droit et la justice s'est intéressé spécifiquement à ce problème des expulsions ?
Alors, je ne veux pas que le rapport fasse l'objet vraiment de toute l'émission. Je sais que M. Varro a beaucoup travaillé au Parlement européen pour obtenir d'excellents textes qui ont beaucoup plus de valeur de ce rapport, que ce rapport, en tout cas sur le plan juridique. Mais donc, ce qui sera intéressant, c'est un peu de comparer, les approches. Donc, nous avons fait un rapport sur ces expulsions, puisque, en fait, on travaille auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est le sujet principal à la Cour européenne des droits de l'homme en ce moment, qui a mobilisé 25 États européens qui ont fait une déclaration commune en décembre 2025 pour s'opposer à l'évolution de la jurisprudence de la CEDH sur les expulsions. Pour s'opposer en fait au laxisme de la CEDH sur les expulsions. Et suite à cette déclaration, une autre déclaration va être adoptée, va être signée en mai 2026, donc dans un mois, et cette fois qui réunira tous les États européens. Et il y a un projet déjà de déclaration qui est très bon et qui principalement reproche à la CEDH de se centrer sur les individus, donc sur le délinquant ou le criminel étranger expulsé, et de ne pas prendre en compte suffisamment la sécurité des sociétés, la culture, l'identité. Et cette déclaration, donc en tout cas le projet qui va être discuté par les différents ministres des Affaires étrangères, demande à mettre fin à une situation devant laquelle ces États se sont retrouvés plusieurs fois, qui est qu'il y a des criminels qui ont fait des crimes graves, qui parfois ne peuvent pas être expulsés à cause du droit européen. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet, et ce rapport, cette étude montre comment la jurisprudence de la CEDH a évolué pour aboutir à ça. En fait, au départ, on partait d'une vie privée familiale, qui est simplement le seul droit sur lequel cette CEDH se base. Toute personne a le droit à la vie privée familiale. Elle se base sur cette phrase. Au départ, ça protégeait l'intimité, donc le domicile, la correspondance. Les personnes ont parfois des questions aussi de sexualité. Puis, dans les années 80, elle a considéré que, sur le fondement de la vie privée familiale, elle pouvait contrôler les expulsions d'étrangers. Y compris délinquants et criminels, et petit à petit elle a établi des critères pour cela, et on a abouti à une jurisprudence de l'année dernière, où là, la CEDH dit, non seulement elle restreint avec ses critères les expulsions, mais en plus elle dit, avant d'expulser, vous devez vous assurer qu'au bout de quelques années, la personne pourra revenir sur le sol européen. Donc elle a un droit au retour sur le sol européen. Et donc c'est ça qui a déclenché la mobilisation de différents États qui non seulement voyaient les freins que la CEDH posait pour expulser, mais qui en plus se disent maintenant, il faut qu'on prévoie des politiques d'immigration, donc là c'est pas remigration, c'est remigration puis réimmigration encore, ce qui paraît complètement absurde, surtout que elle a pris cette décision dans le cadre d'affaires de trafiquants de drogue, de trafiquants de cocaïne irakiens, voilà, qui en fait, on se demande pourquoi on se préoccupe du fait qu'après 6 ans, ils reviennent en Europe.
Ils puissent revenir. Maître Varro, donc vous faites partie de ceux qui, à l'Assemblée européenne, ont discuté de ces textes de loi. Quel est votre sentiment sur la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme s'est emparée de cette question, au détriment d'ailleurs du législateur européen ?
Alors, vous allez voir dans notre conversation que le législateur européen va reprendre la main. Ce que disait Nicolas Bauer, qui est évidemment le sachant dans cette histoire. Moi, on a voté pour moi pour que je vote pour vous. Mais on se nourrit beaucoup.
Je crois qu'on va, saluer l'honnêteté d'un homme politique qui vient de reconnaître. Mais merci beaucoup, Maître Varro.
Que je suis une machine à voter, oui. Alors, j'essaye de le faire avec pertinence en vous écoutant. Mais effectivement, cette histoire que vous évoquiez de ce trafiquant de drogue irakien qui est condamné, et le Danemark le condamne à une interdiction de retour pendant 6 ans. Il est condamné pour trafic de drogue. C'est pas féroce, 6 ans, hein. Il était en séjour régulier au Danemark. La Cour juge, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme a l'idée de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont des associations politiques qu'il soutient? Je ne sais pas trop. Enfin, il se lance quand même dans un épisode un petit peu compliqué, parce qu'il saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il saisira après en grande chambre. Pour faire reconnaître que tout ça, ça porte de facto une atteinte scandaleuse à son droit à la vie privée et familiale, et que l'interdire de revenir pendant 6 ans, c'est en fait l'interdire de revenir à vie. Et donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors ça a créé, ça, ce sont des histoires de juristes. J'en suis un, j'en étais un. J'ai encore des petites traces. Les politiques se sont un petit peu agacés là, et Dieu sait qu'il faut vraiment enfoncer le dard très profond pour obtenir une réaction. Nous avons au Conseil de l'Europe des réactions majoritaires défavorables, et ce qui vient d'être évoqué, on attend pour le mois de mai prochain une déclaration officielle commune, voire éventuellement unanime, pour essayer d'infléchir la ligne de la CEDH. Et on va y venir, on va rapidement raccrocher à notre deuxième sujet, puisque en fait cette décision de la grande chambre de la Cour va se trouver en contradiction avec le règlement retour qui est dans les tuyaux du Parlement européen, que nous avons récemment commencé à voter, hein, on n'est pas au terme. Voilà, alors tout ça est assez technique, compliqué. J'espère qu'on va essayer de ne pas ennuyer vos auditeurs.
J'en suis sûr.
Derrière cette technique se trouvent beaucoup de choses qui nous importent aux uns et aux autres et qui conditionnent notre avenir.
Alors, Nicolas Bauer, la CEDH est allée au bout d'une démarche absolument folle, où comme d'habitude, on garantit absolument à n'importe qui a pénétré dans l'espace européen, non seulement le droit d'y rester, mais le droit d'y revenir, le droit d'y commettre n'importe quel méfait, et comme si le fait d'être rentré au paradis valait interdiction d'en être chassé pour quelque raison que ce soit. Alors, historiquement, Adam et Ève en ont fait la mère constatation. En fait, on peut partir du paradis, et là, il paraîtrait évidemment que quelqu'un qui est hors la loi, qui n'est pas de culture occidentale, qui n'est pas de culture chrétienne, autrement dit qui n'a somme toute que très peu de choses en commun avec la majeure partie de la population qui peuple l'Europe, qu'il soit obligé de repartir dans son pays pour y trafiquer la drogue s'il y veut, ça paraissait normal. La Cour européenne des droits de l'homme considère que les droits de l'homme, en fait, c'est le droit de l'autre de s'installer en Europe, et que cet autre a tous les droits par rapport à l'autre autre qui n'est que le même, qui n'est que celui qui est déjà là et qui, par le simple fait qu'il n'a pas bougé, paraît être une espèce de sous-humanité.
Oui, oui, et puis...
Alors, je ne le dis pas en termes très juridiques, je l'entends bien.
Oui, je comprends. Et puis, ceux qui défendent, en fait, la CEDH dans cette démarche disent ça représente seulement 2% des affaires. Donc, finalement, la CEDH s'occupe surtout de nous, les deux souches, et pas seulement de ceux qui arrivent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est 2% des affaires à la CEDH, mais les premiers responsables de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont toutes les juridictions ordinaires d'Europe. Ça, c'est l'ordre juridique qui veut ça.
Et donc, qui s'appuie sur la jurisprudence de la CEDH pour juger sans même que le dossier remonte à la CEDH.
Exactement. Et en fait, en faisant ce rapport, je suis tombé sur des jurisprudences où, en fait, je voyais les juridictions appliquer point par point les critères de la CEDH pour regarder. Alors oui, donc il y a la question, est-ce que la personne a une vie familiale? Donc épouse, épouse, enfant mineur, bon là il n'y a aucune expulsion. Puis s'il n'a pas de vie familiale, est-ce qu'elle a une vie privée? Et la vie privée, il ne faut pas grand-chose. Je suis tombé sur des jurisprudences où il suffisait d'avoir une petite vie sociale, mais il n'y a pas besoin d'un travail. J'en ai eu un, notamment d'une juridiction allemande, où il regardait simplement que, ah oui, bah, il va à la mosquée tous les vendredis, donc c'est un attachement à une communauté, et donc c'était suffisant pour que, en mettant ça en balance avec d'autres éléments concernant les infractions pénales qu'il avait faites, et ben, ça suffit à bloquer l'expulsion. Effectivement, il y a le contentieux au niveau européen, mais bon, là c'est une toute petite partie, mais il n'y a pas que la CEDH qui est responsable de cela. Tout l'ordre juridique, on le veut comme cela. Et ensuite, si on regardait aussi au niveau, au niveau de l'Union européenne, grâce à ce règlement retour que sur lequel M. Varro travaille, les choses sont en passe, j'espère, de s'améliorer. Grâce à l'Union européenne, pour une fois, parce que si on regarde au niveau national, en fait, le droit national contient aussi les dispositions qui permettent de bloquer tout autant les expulsions pour les mêmes motifs. Donc, c'est pas simplement l'échelon européen qui est à mettre en cause, mais c'est aussi une vision plus générale des choses qui s'est installée dans le droit à tous les niveaux.
Mais alors, tout cela peut aussi s'appliquer sur les OQTF. Il suffit que un OQTF et une vie privée, une vie intime, une
oui,
vie
bah,
sociale.
Oui, en fait, en droit français, il y a déjà des limites. Avant 2024, je crois que c'était 3 ans maximum pour l'interdiction de retour sur le territoire français. Donc l'IRTF, l'OQTF peut être assorti d'une IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. Darmanin l'a passé de 3 à 5 ans. Et donc, en la mettant à 5 ans, on s'est aligné sur la directive européenne de 2008 qui limitait à 5 ans. Donc voilà, on était au maximum. Et là, il y a ce règlement de l'Union européenne qui est en discussion au Parlement européen. Monsieur Varro pourra vous en parler peut-être mieux que moi, qui, je crois, revient sur cette limite de 5 ans pour justement la pousser au-delà. Alors je crois que même il est prévu que l'expulsion puisse être à durée indéterminée. Donc là, cette fois, on verra comment ça va se passer, puisque ça contredit ce que dit la CEDH. Mais en tout cas, effectivement, ça s'applique au niveau français, mais au niveau français, en fait, la question se pose beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'affaires qui remontent à la CEDH, puisqu'en fait, on adhère à une politique migratoire assez laxiste, et on adhère à cette vision qui consiste à se centrer sur les droits de la personne, à ne voir plus qu'elle, et à oublier, en fait, les droits de la société.
Alors, Maître Varro, justement, la démarche qui est faite et à laquelle vous participez, c'est en fait d'expliquer à la Cour européenne des droits de l'homme votre jurisprudence extensive. Je cite d'ailleurs votre rapport, Nicolas Bauer, comme quoi la Cour considère la Convention comme un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui, selon une approche dynamique et évolutive. Autrement dit, je peux repousser les barrières du possible jusqu'à l'absurde. Eh bien, vous êtes en train d'expliquer à la CEDH qu'il faut qu'elle change de jurisprudence, qu'il faut qu'elle revienne en arrière, entre guillemets, comme dirait un progressiste, que ce mouvement irréversible, normalement, d'extension des droits de l'autre, en fait, va non seulement cesser, atteindre sa limite, mais même commencer à replier, à refluer. Pensez-vous que les juges de la CEDH sont capables d'une telle révolution copernicienne?
Oui, alors, plusieurs observations, parce que votre question est complexe. La première, peut-être rappeler à nos auditeurs que la CEDH n'est pas un quatrième degré de juridiction de l'ordre français. C'est-à-dire que la CEDH, à laquelle on peut déférer une décision devenue définitive dans l'ordre d'un des pays de l'Union, on va prendre la France, ce qui nous intéresse, ne remettra pas en cause cette décision. Elle peut prendre une décision qui, éventuellement, condamne la France pour avoir pris cette décision. Mais la décision, elle ne changera pas. Alors évidemment, cette condamnation a potentiellement une certaine autorité pour la suite. mais c'est une autorité qui n'a rien d'obligatoire, en fait. Hein. Nous sommes, et nos juges sont éventuellement des victimes consentantes. Rien ne les empêcherait de rendre ce qu'on appelait autrefois des arrêts de rébellion, et de dire que bon, la décision de la CEDH, très bien, mais c'est l'avis de la CEDH et c'est pas l'avis de la juridiction française, de la Cour d'appel de Paris, de la Cour de Clermont-Ferrand, de Lyon, que sais-je. De Lyon, il n'y en a pas à Clermont-Ferrand. Voilà, donc la CEDH ne s'impose à nous que pour autant qu'on se laisse imposer par elle. Maintenant, effectivement, ce sont de hauts magistrats qui ont été sélectionnés, qui appliquent des règles que nous avons choisies, donc on ne peut pas passer totalement à l'écart en permanence. Ce qui se passe actuellement, effectivement, c'est le bon moment, merci monsieur de provoquer ce débat, puisque entre l'arrêt de la fin de l'année 2024, dont nous parlions tout à l'heure, du Danemark sur ce ressortissant irakien dont on disait qu'on ne pouvait pas l'expulser parce que c'était vraiment trop cruel et que ça l'empêchait d'avoir une vie privée et familiale, en tout cas pas pendant 6 ans, est intervenu le règlement retour. Alors, est-ce que je continue un petit peu sur ce sujet ou vous trouvez que j'ai déjà été assez long ?
Mais pas du tout, maître, je vous en prie, continuez.
Alors, je continue. Le règlement retour, je vais commencer par le haut du spectre. Ça a été un sujet un petit peu compliqué pour nous. Vous l'avez rappelé, alors vous avez dit que j'étais eurodéputé, j'ai pas déchiré ma chemise, mais j'étais à deux doigts, je suis député français au Parlement européen, et non pas eurodéputé. Notre principe est que, d'abord, nous n'aimons pas beaucoup les règlements. Je rappelle à vos auditeurs que les règlements s'imposent directement dans l'ordre juridique national, à la différence des directives qui doivent être adaptées par les parlements nationaux. Donc déjà, un règlement en soi nous paraît, c'est une évidence, un règlement n'est pas souverainiste. Voilà. Ensuite, un règlement sur la question des migrations nous irrite par nature profondément, puisque nous faisons campagne depuis bien longtemps pour dire que le Rassemblement national, lorsqu'il sera au pouvoir, reprendra la main sur les flux migratoires et que la première chose que nous ferons, à l'été 2027, si les Français, ce que je crois, ce que j'espère, nous font confiance, sera de provoquer un référendum pour qu'on nous donne la main, pour reprendre la main sur la question de la migration. Donc, on est dans cet état d'esprit. On fait campagne depuis des années pour dire c'est nous, Français, qui allons décider du fonctionnement des migrations en France et non pas l'Union européenne. Et voilà que par l'effet d'une mauvaise chance, qui s'avère finalement peut-être pas si mauvaise que ça, on nous colle ce règlement, on veut pas des règlements, sur les questions migratoires, on veut s'en occuper nous-mêmes. Bien. Au début, ça commence très mal. C'est initié par un rapporteur de centre-gauche qui a l'intention de faire un truc tout à fait comme on veut pas. Bon. Et puis, après, ça c'est la cuisine propre au Parlement européen, les choses évoluent et se crée une majorité miraculeuse. On l'appelle maintenant dans notre jargon au Parlement européen la majorité Venezuela. Parce que c'est à propos d'un texte relatif au Venezuela, vous voyez que l'Europe se mêle de tout, y compris de ce qui ne la regarde pas, que pour la première fois nous avons fait un accord entre la droite du PPE, les patriotes pour l'Europe, c'est-à-dire nous, ECR, c'est-à-dire les conservateurs où vous trouvez notamment Fratelli d'Italia ou Marion Maréchal, et ESN, où il y a essentiellement à 90% les Allemands de l'AFD et Sarah Knafou. Donc, cette réunion, qui n'est pas une réunion d'adeptes du wokisme le plus déchaîné, cette fois-ci, sur la question de la migration, on se met d'accord et on renverse le projet de gauche et est adopté pour le moment au stade de la commission, le 9 mars 2026. Dans la commission dite Libé, là aussi c'est du jargon, liberté civile, une décision qui va sur un chemin qui nous est très favorable. Enfin, qui est bien meilleur que ce qui existe aujourd'hui. Et qui renvoie directement en trilogue. Et là, à nouveau, je suis désolé d'infliger à tout le monde ce cours de droit, mais il faut expliquer ce que c'est qu'un trilogue. Il y a trois institutions européennes qui, comme le nom l'indique, discutent à trois, trilogue. Et il y en a une, la commission, dont il arrive aux uns et aux autres de dire grand mal, qui a le monopole des propositions. Et elle propose aux deux co-législateurs, qui sont le Conseil d'une part, c'est-à-dire les 27 pays, et le Parlement européen, qui représente les habitants des 27 pays. Voilà. Et on doit se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord, et il y a une grande culture du compromis, de la médiation, de la recherche d'un accord, ça prend parfois énormément de temps. Ça aboutit à des textes parfois un petit peu bancals parce que, un texte longuement négocié et retraduit 27 fois, ça n'est pas l'idéal du législateur de droit romain. Mais on ne va pas trouver que la mariée est trop belle. On avance sur ce sujet-là dans le bon sens. On est renvoyé en trilogue. Le Parlement a essayé de s'opposer à ce renvoi en trilogue en assemblée plénière le 26 mars 2026, donc vous voyez, on est vraiment dans l'actualité, et il a été envoyé bouler par la même majorité de droite, on va dire, pour simplifier. Hein. Et nous sommes sur le chemin de quelque chose qui va permettre de durcir les politiques migratoires. Alors, on pourra venir un petit peu dans le détail, mais... Là, je vais vous rendre la main un petit peu.
mais merci. Avant de revenir dans le détail, je voudrais revenir sur votre rapport, Nicolas Bauer. Donc, puisque je rappelle que nous sommes en train de recevoir Maître Varro et Nicolas Bauer pour discuter d'abord du rapport sur l'expulsion des étrangers délinquants et criminels à l'épreuve de la jurisprudence européenne. Dans ce rapport, vous retracez en fait voilà, toute l'histoire de cette jurisprudence de la CEDH et donc décennie après décennie sur cette interprétation de plus en plus extensive de la Convention des droits de l'homme donc, qui aboutit donc, à cet Irakien aberrant jusqu'à la réaction de 2024, de 2025, de 2026. Puisque, je vous rappelez qu'en 2025, voilà, Giorgia Meloni et Maître Frederiksen avaient écrit une lettre ouverte qui en commençant à sonner le tocsin avant de sonner le glas et on sent bien que le mouvement commence à basculer mais si le législateur n'a pas envie de se sentir tenu par ce que disent les politiques, il en a parfaitement le droit. Après tout, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut très bien jouer le rôle de n'importe quelle cour constitutionnelle, de n'importe quel conseil d'État, de n'importe quel conseil constitutionnel qui explique qu'il connaît mieux la démocratie que l'ensemble des peuples qu'il est censé représenter et accompagner. Et donc, vous suggérez dans votre rapport en fait, qu'on modifie carrément la Convention européenne des droits de l'homme. Pour que là, le législateur ne puisse, enfin, le législateur, celui qui est en charge d'appliquer la Convention, de l'interpréter et de produire des arrêts de justice, donc la Cour européenne des droits de l'homme, ne puisse plus s'appuyer, en fait, sur une interprétation dynamique et évolutive de la Convention, parce que la Convention elle-même aura changé. Vous lui proposez, en fait, de couper le carburant, de lui taillader les jarrets, de lui rogner les oreilles, enfin, voilà. Donc, la Convention doit changer de face pour que la CEDH change de régime.
Oui, bah le problème qu'on a, en fait, c'est à partir du moment où on a fait cette analyse la jurisprudence de la CEDH a pris cette orientation, que les juges des juridictions ordinaires l'appliquent. Alors certes, on peut espérer que certains juges se rebellent, mais en tout cas, la question qui se pose, c'est aussi que peut faire le politique pour les juges qui l'appliquent de manière stricte et qui, par exemple, vont déclarer une expulsion illégale, ce qui arrive. Et ben du coup, il faut quand même se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour remédier au problème. Et donc, soit il y a l'option sortie de la CEDH, mais c'est pas la seule. Quitter la CEDH, bon, ça n'a pas forcément bonne presse. C'est plutôt les expériences précédentes, ça va plutôt correspondre à des pays comme la Russie. Et sinon, si on ne quitte pas la CEDH, il faut dire ce qu'on fait en fait. Puisque pour le moment, l'état du droit actuel, c'est dans notre article 55 de la Constitution, tout traité international a une autorité supérieure à celle des lois. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un traité international. Elle a une autorité supérieure à celle des lois. Et dans la Convention, il est écrit que la Cour est l'interprète de la Convention. Et il y a même une phrase que j'aime bien, ah ben je ne sais plus si je l'ai, si je l'ai notée là, mais il y a une phrase que j'aime bien de la CEDH sur sa compétence, voilà, qui dit dans la Convention qu'elle est la seule compétente. Et il y a quand même un petit alinéa en disant en cas de litige, c'est la CEDH qui tranche sur la question de la compétence de la CEDH sur la Convention. Donc vraiment, c'est très précisément dit. Et donc, on peut espérer que des juridictions se rebellent ou rappellent qu'il y a d'autres manières d'interpréter la Convention. Mais en tout cas, l'état du droit actuel, c'est de dire que la CEDH est la reine de cette interprétation. Et elle a elle-même fixé sa méthode donc, d'interprétation, disant que c'est un instrument vivant, dynamique, bah, la phrase que vous avez rappelée. Donc une fois qu'on a dit cela, il faut se poser la question de ce que peuvent faire des gouvernements qui veulent appliquer un programme qui n'est pas compatible avec certaines interprétations de la CEDH. Alors il n'y a pas que le sujet de l'immigration, il y en a d'autres. Par exemple, certains candidats proposaient le retour à une perpétuité réelle dans les peines de prison. Bah, ça, la CEDH considère que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a la question du regroupement familial aussi. Restreindre ou mettre fin au principe de regroupement familial, c'est contraire au droit au respect à la vie familiale. Et donc, il y a tous ces éléments qui peuvent être mis dans des programmes politiques, mais qui sont pour le moment incompatibles avec la CEDH. Et il y a donc la Cour qui peut condamner la France. Mais ça, à la limite, c'est pas le pire, puisqu'il y a beaucoup de jugements qu'on n'exécute pas, pas vraiment. Mais il y a ensuite tous les juges nationaux qui peuvent en fait s'imposer aux politiques. Donc après, restent certaines solutions qui sont envisagées. Alors, je sais que Sarkozy avait parlé de ça à une époque. Même Édouard Philippe parle de ça maintenant, de mettre une pression à la CEDH. Avec deux manières de faire, l'une qui serait de réviser la Constitution pour développer notre propre interprétation de certains droits de l'homme, mais bon, ça c'est très très ambitieux, puisque du coup il faut pouvoir modifier la Constitution. Il propose aussi, je crois, le fait de mettre d'accord certains États pour ajouter un protocole à la CEDH qui restreindrait sa manière d'interpréter la Convention et qui lui donnerait d'autres objectifs comme prendre en compte la sécurité des Européens, ce serait pas mal, puisque pour l'instant, la sécurité au maximum, c'est seulement dans la Convention une limite à des droits individuels, mais c'est jamais plus qu'une limite à un droit individuel, alors qu'en fait, la sécurité, c'est un bien commun, ça devrait être même supérieur aux droits individuels. Donc effectivement, il y a certaines propositions qui peuvent être faites pour modifier le système de la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est quand même difficile, c'est quand même ambitieux. Et bon, là, on parle du contexte de cette déclaration qui sera faite au Conseil de l'Europe, on parle de ce règlement de l'Union européenne sur le retour, mais bon, dans un an, on a aussi la présidentielle en France, et je trouverais intéressant qu'on nous dise un peu plus en détail que les différents partis qui ont des programmes de droite, nous disent un peu plus en détail ce qu'ils veulent faire à ce niveau-là. Bon, ça pourrait être forcément que mieux que ce qui est fait actuellement, puisque actuellement, on a la France qui est un des rares États qui s'oppose à ce mouvement, à cette dynamique qui remet en cause le laxisme de la CEDH. Et la France s'oppose, je crois, à certains éléments qui sont proposés dans le règlement dont M. Varro parlait, dont le fait d'avoir des centres pour migrants, pour faciliter les expulsions. Donc je pense que les prochains gouvernements ne pourront faire que mieux à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faudra voir, je pense, en détail, d'un point de vue pas seulement politique, mais aussi technique et juridique, comment, si on reste dans la Convention européenne des droits de l'homme, rendre compatible cette convention, la jurisprudence et un programme politique plus ferme en matière d'immigration.
Alors, justement, à propos de programmes politiques, pour être certaine de bien comprendre, corrigez-moi si je me trompe, la CEDH peut mettre son veto sur des propositions d'un programme politique. Vous parliez tout à l'heure de sécurité. Je vais prendre l'exemple du Rassemblement national avec, comme nous avons Maître Varro. Le Rassemblement national parle très souvent des peines planchers, de réinstaurer les peines planchers. Ça pourrait être quelque chose présenté dans le programme du candidat du Rassemblement national en 2027, à laquelle la CEDH pourrait s'opposer?
Alors, je ne crois pas que la CEDH ait dit quoi que ce soit à ce niveau-là, mais la question, elle se pose plutôt au moment de la mise en œuvre du programme. C'est si une loi n'est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, un juge est censé l'écarter ou la réinterpréter d'une manière compatible. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se pose dans l'application.
Oui. D'ailleurs, Jean-Yves Le Gallou disait, publication donc, de son ouvrage sur la remigration, mais c'est une prise de position et une analyse qu'il a pu développer plusieurs fois, que le législateur parfois se censurait de manière préalable en prévision de la censure de la CEDH. C'est-à-dire que,
oui, sachant... c'est ce qu'on a fait sur le changement de sexe à l'état civil, par exemple, où... François Hollande à l'époque et le Parlement ont voté la possibilité de changer de sexe à l'état civil sans changer d'apparence physique, sans opération, en invoquant le fait qu'il y aurait une future condamnation de la CEDH sur le sujet. Oui. Donc parfois, effectivement, on a...
C'est-à-dire que tout programme, en fait, doit effectivement, et quasiment en préambule, quasiment en intitulé, expliquer ce qu'il fera avec la censure a posteriori ou a priori de la CEDH. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme politique qui ne doit avoir quand même une case significative et quid de la CEDH. François Fillon, je crois, avait été un des premiers à mettre le sujet sur la table en 2017 avec une démonstration assez épaisse. Une question tout de même à Alexandre Varro, donc, qui... de fait, par sa qualité de parlementaire européen, est conscient des rapports de force au sein du Parlement de Strasbourg. Vous évoquiez cette fameuse coalition Venezuela. On sait qu'un texte de Julian Sanchez avait été notamment approuvé au Parlement européen. Causeur en avait fait un article. On sait également qu'un rapport de Sarah Knafo concernant le numérique avait été adopté par la majorité au Parlement européen. Donc, ponctuellement, les anciens parias politiques navrés du Parlement européen, en tout cas qui étaient considérés comme tels il y a de cela 20 ans, arrivent ponctuellement à susciter des majorités avec des partis gouvernementaux tout à fait installés. Est-ce que ne peut-on pas envisager désormais, vous parliez de souverainisme, vous expliquez que vous étiez un parlementaire français au Parlement européen, et je vais peut-être contrarier Richard de Sèze, mais ne pourrait-on pas envisager désormais, au vu d'une majorité virtuelle sur certains sujets régaliens au sein du Parlement européen, que l'Europe apparaissent désormais, ponctuellement du moins, comme étant un vecteur de défense de nos frontières, de nos intérêts. Ne peut-on pas, par-delà le souverainisme à papa, on sait, cher Alexandre Varro, que vous êtes issu du MPF de Philippe de Villiers, envisager une défense de nos intérêts, de nos frontières, dans le cadre de l'Union européenne et au niveau continental, puisque le rapport de force, semble-t-il, a évolué au Parlement européen?
Bah, oui, vous avez tout à fait raison, et tout à fait d'accord pour ne pas poursuivre un... le souverainisme que vous appelez cruellement à la papa.
Il faut l'excuser, il est jeune.
Nous prendrons tout ce qui est bon dans l'intérêt des Français, et si c'est l'Europe qui doit se mettre à défendre les Français, eh bien, bienvenue, voilà, qu'elle le fasse. En l'occurrence, ce règlement nous permet de faire un certain nombre d'avancées qui sont très significatives. On pourra avoir des durées de rétention qui ne seront plus de 3 mois comme aujourd'hui, mais de 12 mois renouvelables. Autant vous dire que 2 fois renouvelables, ça fait une sacrée différence. Il n'y aura plus d'effet suspensif systématique des recours. On pourra passer des accords avec des pays tiers pour renvoyer des gens sous OQTF dans des pays tiers, même si ça n'est pas le pays d'origine des expulsés. On aura comme ça toutes sortes d'avancées extrêmement significatives qui, le fait est, pour le moment, viennent. Je ne sais pas si ça vient de l'Europe. L'Europe, ça n'existe pas. L'Europe, ça n'est jamais que le vote majoritaire des pays de l'Union européenne. Bon, alors ça vient de ces pays rassemblés au sein du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. Et cerise sur le gâteau, nous avons... dans ce règlement, je commençais en me disant, on n'aime pas tellement les règlements parce que ça s'impose tout de suite et C'est vraiment une loi supranationale. Mais c'est un règlement qui a un arrière-goût de directive absolument délicieux, puisqu'il laisse aux États membres la possibilité de s'écarter de ce qui est décidé dans le règlement sur plein de sujets, et de le compléter par des mesures nationales, y compris plus sévères. Alors on pourra, je vous les cite comme ça à la volée, quelques-unes d'entre elles, adopter des peines de prison pour sanctionner les séjours irréguliers, ce qui est aujourd'hui impossible en France, imposer une interdiction à vie de revenir sur le territoire européen, c'est-à-dire que pchit la jurisprudence du Danemark dont on nous parlait tout à l'heure, fixer à zéro le délai laissé à un clandestin pour repartir volontairement, allonger la liste des motifs pour la durée maximale de rétention, etc. Alors, tout ça, c'est pas fait. Mais on aura le droit de le faire. Ça veut dire que le règlement éventuellement adopté, les élections de 2027 étant passées, celles-ci s'étant déroulées telles que je l'espère, et un certain nombre de vos auditeurs aussi, je crois, si je ne me suis pas trompé de radio. nous voici au pouvoir, et avec la volonté et l'obligation de faire nos preuves, hein, parce que on ne nous laissera pas 20 ans pour montrer qu'on avait raison. Donc, on a la possibilité, par ce règlement, d'aller encore plus loin que ce que proposait le règlement, et de faire des interdictions à vie du territoire, et de maximiser les durées de rétention, bref, d'avoir une politique d'immigration qui ressemble à quelque chose, et non pas à cette vieille passoire remplie de gros trous qui existe actuellement.
Et peut-on envisager d'autres...
Alors, pardonnez-moi, donc, puisqu'on parle de passoires remplies de gros trous, c'est un peu, en fait, l'état des finances de Radio Courtoisie. Alors, non pas que nous sommes une passoire, mais vous êtes un million.
Vous savez, nous sommes un parti très pauvre, je peux rien pour vous.
mais merci, Maître Varro, et je vous promets de faire un appel au don du RN à la fin de l'émission. Mais là, pour le moment, c'est ma cuisine que je défends. Et donc, ouais, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, 1,5 million d'individus différents, voilà, selon les sources les plus sûres, et notamment une étude Médiamétrie. Il faut que vous puissiez... écouter cette émission et toutes les autres, celle de demain et celle d'avant-hier, mais celle aussi de dans un an. Donc n'hésitez pas, soutenir.rc.fr, voilà, participez et rejoignez la cohorte de quelques milliers de personnes qui nous aident. Voilà, on est un peu moins de 2%. Si on atteint 2%, déjà on sera content. Vous pouvez commencer à 1 €. Voilà, ça nous aidera déjà énormément. Maître Varro, je vous ai interrompu pour parler de mes problèmes de passoire, mais Lucien Rabouille avait justement une autre question.
Peut-on envisager d'autres décisions au niveau européen, d'autres protections migratoires, juridiques et pourquoi pas économiques au terme de la mandature ?
Oui, alors votre question est vaste, mais nous sommes là pour ça, pour encore pour cette mandature-là, encore près de 3 ans et demi, avec l'espoir effectivement de faire bouger les choses. Vous savez, on les regarde... On les prend une par une. Hein. Le règlement retour, c'était déjà l'Everest par la face nord. Hein. Donc, on fait pas tout en même temps. Je ne crois pas qu'on ait de textes très importants, en tout cas pas de cette importance-là, qui viennent avant l'été. En tout cas, si c'est le cas, je ne le sais pas. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas, parce que vous savez, on travaille par commission. Et heureusement que nous sommes nombreux et que nous avons de nombreux et excellents collaborateurs, sinon on n'y arriverait pas tellement la masse de travail est absolument considérable. Oui, on change beaucoup de choses. Oui, ce que nous changeons ne se voit pas tout de suite. C'est-à-dire que ce que nous décidons, d'abord ça prend des années au sein du Parlement européen, et ça n'aura souvent des effets après en droit interne, en droit français, que si ce sont des directives assez longtemps après, si ce sont des règlements plus immédiatement. Et tout ça prend du temps. Mais ce que nous faisons, qui est très peu connu des Français en fin de compte, hein, et d'ailleurs les parlementaires européens ne sont pas connus. Il y a très peu de visages connus, à part la fâcheuse Rima Hassan, ou pour d'autres raisons, M. Glucksmann, et évidemment, Jordan Bardella.
Excellente Saracnafo.
Voilà. Le parlementaire de base n'est pas connu, n'a pas de raison de l'être. Nous ramons dans l'ombre, mais utilement. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, derrière notre président de groupe, Jordan Bardella, on a l'impression quand même de faire du bon travail, d'avancer et d'avoir cassé ce fichu plafond de verre qu'on nous a imposé hein, au début. Il y a un an et demi, quand on est arrivé, on pensait que, bon, ils allaient prendre acte du fait que sur les 87 députés en France, il y en avait 30 du Rassemblement National. On faisait plus qu'un tiers des députés. C'est énorme. Voilà, à nous tout seuls. Si vous ajoutez Marion Maréchal, Nicolas Bay, etc., enfin bon, bref, tous ceux qui votent très très souvent comme nous, Guillaume Pelletier, il y avait une solide majorité de patriotes. Tout ce petit monde-là s'est rassemblé pour violer ses propres règles, une règle qu'on appelle la loi Dont, et pour dire que nous n'aurions aucune présidence de commission, que nous n'aurions pas les rapports, que bref, nous n'aurions aucun des postes éminents de pouvoir. Voilà, que nous aurions dû avoir, par notre seul poids, par le fait que nous sommes le troisième groupe du Parlement, que la France est la première délégation de ce troisième groupe, etc. Eh bien, rien du tout. Donc ça a commencé très mal. Et puis là, eh bien, petit à petit, à force de travail, d'habileté, et puis des circonstances politiques qui s'imposent, voilà, nous avançons. On a eu une mauvaise nouvelle, on n'en parlait pas, bah, c'est le vote en Hongrie il y a 2 jours, on est vraiment désolé pour nos amis. Moi, j'ai été à Budapest il y a 3 semaines, à une réunion publique avec quelques-uns de mes camarades parlementaires pour soutenir, et Marine Le Pen à notre tête, pour soutenir Viktor Orban. Donc, c'est une cruelle déception. Deux observations sur ce sujet, hein. je dérive un peu, mais vos auditeurs seront ravis de l'entendre quand même. La première, c'est qu'on nous a annoncé qu'avec Viktor Orban, c'était l'illibéralisme, que c'était la fin de la démocratie, que c'était une espèce de dictature sur le sol européen. Ben, tout s'est passé de la manière la plus paisible. Il a perdu, il a appelé son adversaire pour le féliciter de sa victoire, et la Hongrie entame une nouvelle période politique dans l'alternance politique la plus calme, voilà, donc il n'y avait aucune forme, d'aucune sorte de dictature. Et puis ensuite, pour rassurer un peu nos amis, moi, tout ce que je lis depuis quelque temps sur le vainqueur de cette élection, c'est quand même un dissident du Fidesz, du parti de Orban. Il a l'air plutôt plus dur que Orban sur la question de l'immigration, pas beaucoup plus souple sur la question européenne. Et donc, ceux qui se frottaient les mains autour de Georges Soros et de la gauche wokiste européenne feraient bien d'y réfléchir à deux fois, parce que je ne suis pas sûr que ça va bien améliorer leur situation. Voilà, je l'espère pour les Hongrois. Ils ont perdu quelque chose avec Orban, mais peut-être que ce qu'ils auront sera moins atroce que ce qu'on nous promettait.
Nicolas Bauer, on a dressé le tableau donc apocalyptique de ce que la CEDH avait fait la Convention européenne des droits de l'homme. On a, avec Maître Varro, commencé à esquisser le sentier lumineux, si je peux me permettre, sur lequel nous allons marcher pour sortir de cet droit de l'hommisme absolument aberrant. Malgré tout, on sent bien qu'il y a des obstacles. D'abord, il y a ce trilogue, dire il faut que l'ensemble des institutions européennes se mettent d'accord. Maître Varro l'a souligné, ça peut prendre terriblement le temps. Il y a dans les propositions que détaillait Maître Varro des propositions très pratiques, très concrètes sur le fait de ne laisser aucun délai pour le départ volontaire, par exemple, l'allongement de la durée de rétention à 12 mois et même le doublement de cette durée de rétention, le cas échéant. Et c'est autant de points qui sont la liste de vœux, la liste de cadeaux de Noël que veulent les patriotes. Combien d'entre eux ont la chance d'être effectivement accordés? Combien de temps cela va-t-il prendre?
Alors effectivement, je suis d'accord avec M. Varro, vous avez fait un excellent travail sur ce règlement, puisque, comme le rappelait Maître Varro, c'est la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative législative. Donc c'est elle qui propose. Les parlementaires ne peuvent pas eux-mêmes proposer un texte. Et malgré cela, ce texte a été, je crois, très largement modifié par la commission parlementaire dont Maître Varro est membre. Et ensuite, il y a eu un vote en plénière avec toutes les dispositions qu'on vient de citer. Ce règlement est très bon. L'objectif est fixé dès le préambule. J'étais étonné en le lisant. Il y a un problème d'expulsion, seulement 20%. Il faut arriver à 100%. On se demande un peu d'où vient ce texte quand on a l'habitude des textes européens. Après, effectivement, il y a ce trilogue qui va probablement amener à des modifications. Je pense que malheureusement, ça ne suffira pas à complètement enterrer la jurisprudence de la CEDH, puisque ça reste quand même le modèle en matière de droits de l'homme. Donc il y a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une autre convention de droits de l'homme qui concerne la partie Union européenne, mais elle est postérieure. Et le modèle d'interprétation des droits de l'homme, y compris pour cette charte, est la CEDH, en fait. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour le moment, quand il s'agit de textes de l'Union européenne, la CEDH présume que les droits de l'homme sont respectés. Elle n'est jamais sortie de cette présomption, puisque l'Union européenne a cette charte. Mais elle dit qu'elle pourrait sortir de cette présomption. Donc, s'il y a une contradiction, et le risque, c'est que pendant le trilogue, cette contradiction soit anticipée et que le règlement puisse être, je pense, modifié dans un mauvais sens. Mais en tout cas, pour le moment, le texte adopté en première lecture est très bon. Après, il y a beaucoup d'autres textes européens sur l'immigration. On parlait il y a deux ans beaucoup du pacte sur la migration et l'asile, notamment de la question de la répartition des migrants, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh ben, ce pacte n'est pas encore entré en vigueur, il entrera en vigueur en juin 2026, avec donc des sanctions financières prévues pour les États qui refusent cette relocalisation. Donc ça s'appelle mécanisme de solidarité, mais c'est des sanctions financières à 20 000 euros, je crois, par migrant refusé. Donc du coup, il y a aussi ce type de texte, ce pacte qui n'est pas encore en vigueur. Pour rejoindre ce que disait Maître Varro sur Viktor Orban, je pense effectivement que c'est un modèle de résistance aux institutions européennes, mais de résistance intelligente, en essayant de changer aussi les choses de l'intérieur, en n'hésitant pas parfois à s'opposer frontalement, mais tout en gardant des contacts diplomatiques forts avec tous les autres gouvernements. Mais indépendamment de la question de Viktor Orban ou de son successeur, il faut réaliser qu'il y a beaucoup de gouvernements en Europe sur la question de l'immigration, y compris de gouvernements de gauche, qui en fait partagent ce qu'on dit là aujourd'hui. Et dans les différents gouvernements qui se sont opposés, que ce soit à la CEDH ou qui œuvrent pour que des textes comme ce règlement soient adoptés, il y a des gouvernements de gauche comme le gouvernement polonais. Gouvernement de polonais qui est le gouvernement de gauche qui a renversé après l'alternance, après droit et justice qui était plutôt le parti conservateur. Il y a le gouvernement danois qui est peut-être le plus motivé des gouvernements européens sur la question migratoire, en tout cas pour
social-démocrate.
Voilà, qui est social-démocrate également. Donc en fait, les prises de position d'Orban, de son successeur ou d'autres prises de position de gouvernements plus fermes sur l'immigration et des prises de position avec une certaine résistance quand même aux dérives des institutions européennes, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère qu'un futur gouvernement français n'aura pas peur de rejoindre ce dynamisme.
Maître Varro, effectivement, on se retrouve avec dorénavant une question migratoire qui n'est plus un épouvantail pour faire peur aux gens de droite et brandi par les gens de gauche. Voilà, même les gens de gauche, dans le reste de l'Europe, commencent à expliquer que, bien sûr, chacun est libre d'aller et venir, mais que s'il va et vient en pillant, en volant, en violant, en assassinant, ça devient légèrement problématique. Et s'il le fait en plus au nom de principes qui sont très clairement contraires aux valeurs de l'Union européenne, quoi que cela puisse vouloir dire, ça aussi, c'est un vrai problème. La France va bientôt faire figure de dinosaure un peu inadapté dans cette Europe qui, peu à peu, est en train de prendre la mesure des dangers de l'immigration.
Oui, c'est pour ça que je suis, moi, assez optimiste. Alors, un optimiste vigilant. Mais il y a un vent, on va dire de droite pour simplifier, un vent patriotique, ça serait plus exact, qui souffle sur tous nos pays. Et la période de l'immigrationnisme à tout craint et de l'immigration est une chance pour la France ou pour tout autre pays, je crois que c'est bien terminé. Et ce vent-là, il est puissant et il va s'imposer, me semble-t-il, directement ou indirectement à tout le monde, y compris aux cours suprêmes. Et on sait bien, là, ça fait une heure qu'on s'occupe de dire tout le bien qu'on pense de la CEDH, mais on fera une autre émission la semaine prochaine sur le Conseil d'État et la semaine d'après sur la Cour de cassation et puis une sur la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, on a un petit peu de pain sur la planche en matière de Cour suprême.
Alors, j'aurais vraiment été ravi.
Donc, il y a un vrai sujet avec ces gens-là. Alors, comme on ne peut plus, je pense que ça serait un peu démodé. Agir comme Louis XIV et exiler le Parlement à Pontoise pour lui apprendre à vivre, parce qu'à l'époque, voilà. On ne revenait pas de Pontoise dormir à Paris aussi
un
facilement
bon coup de Mokou.
Il faut que ça soit la volonté politique qui s'impose. Et cette volonté politique, moi, j'en vois plein de signes. Dans ce vote qu'on vient d'évoquer sur le règlement retour, où on fait des alliances sur la question de l'immigration. Et voyez-vous, un tout petit détail, puisque depuis le début de l'émission, vous m'appelez Maître Varro, ce qui m'arrive de moins en moins souvent, mais je suis toujours avocat. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accompagné à la 17e chambre correctionnelle de Paris, qu'on appelle la chambre de la presse, tant et tant de gens qui étaient poursuivis pour avoir Oresco référence, fait un lien entre, par exemple, l'immigration et l'insécurité. Et quelle que soit la qualité de l'avocat qui les accompagnait, la condamnation était certaine. Et bien maintenant, ils ne sont plus condamnés. Voilà, vous pouvez le dire, c'est-à-dire que le regard de la société, qui sait très bien la société, qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, évidemment, tout le monde le sait, il faut être complètement beuné pour ne pas le voir. Eh bien, les juges ont fini par adopter le regard de la société parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Eh bien, je crois qu'il en arrivera de même à un moment avec les cours suprêmes également, qui à un moment ne pourront plus faire autrement parce que la pression populaire sera-t-elle une pression toute pacifique ? Sera-t-elle qu'on ne pourra plus faire autrement ? Et c'est la force des référendums qui à un moment... Quoi que vous fassiez de votre référendum, quand 75% des gens vous ont dit qu'ils voulaient quelque chose, eh ben voilà, il y a un jour où, comme on dit, je crois, dans Audiard, quand l'homme de 100 kilos parle, celui de 60 écoute. Donc, il y aura un poids du peuple qui va s'imposer. Or, le peuple, il pense ça. Le peuple, il pense tout simplement que l'immigration est incontrôlée et qu'on doit la contrôler dans l'intérêt de tout le monde et surtout, d'ailleurs, des immigrés qui voudraient s'assimiler. Et qu'ils ne le peuvent pas à cause de la mauvaise immigration. Voilà. Et on pourrait encore accumuler les exemples dans ce domaine. Et je voudrais, avant, puisque on s'approche peut-être petit à petit
à grand pas,
rendre hommage à mon camarade et Fabrice Légéry, qui était notre chef de file. Sur cette question du règlement retour au sein de la commission Liberté Civile, Fabrice, qui a été le directeur de Frontex, qui a dû quitter Frontex, l'agence frontalière européenne, parce qu'il avait refusé d'en faire une agence d'accueil pour les immigrés et qu'on lui avait confié la charge de protéger les frontières, et bizarrement, il s'est dit qu'il fallait qu'il protège les frontières. Et quand un certain nombre des dingues qui nous gouvernent se sont rendus compte qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire, au mieux de faire ce que les organisations de gauche lui demandaient, c'est-à-dire d'aller avec des bateaux payés par nos impôts, chercher des gens amenés par les passeurs pour les ramener à Lampedusa et ailleurs, que son truc, c'était pas ça. Il s'y est opposé, et évidemment, il lui est arrivé un premier malheur qu'il a perdu Frontex, et puis un grand bonheur qu'il est devenu député avec nous. Voilà, il joue un rôle important dans cette affaire, donc je salue Fabrice à cette occasion.
Nicolas Boer, donc une dernière question. Donc, Maître Varro nous a rendu espoir dans le fait que ça allait marcher. Effectivement, voilà, le 15 mai 2026, à Chișinău, j'espère que je le prononce correctement, en Moldavie, donc la question des expulsions des délinquants et criminels étrangers va être à l'ordre du jour. Est-ce que aujourd'hui en Europe, il y a des législations qui sont beaucoup plus efficaces que la législation française ?
Oula, vous me posez une colle.
Est-ce que dans les exemples que vous avez réunis, on s'aperçoit, par exemple, je crois que la durée de rétention en Allemagne est largement supérieure à la durée de rétention française, par
oui,
exemple.
Oui, ça, pour le coup, l'Union européenne permet d'avoir une durée de rétention beaucoup plus importante, je crois, jusqu'à 24 mois, alors qu'en France, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est sûr qu'on n'utilise pas tout ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne. Le Danemark était quand même, je pense, assez efficace pour le coup avant que la CEDH lui fasse réviser plusieurs lois, puisque avant cette affaire de 2024, il y a eu des affaires danoises depuis la fin des années 2010. Et en fait, au début, le Danemark cherchait à être un bon élève de la CEDH en disant regardez, vous m'avez dit de ne plus faire d'expulsion définitive, alors j'ai aboli les expulsions avec une interdiction de retour illimitée. Mais la CEDH lui dit ensuite ah oui d'accord, l'interdiction de retour n'est pas à durée indéterminée, mais vous ne montrez pas que la personne pourra vraiment revenir. Donc en fait le Danemark a compris à force que il fallait arrêter de faire le bon élève. Je pense qu'il y a un réveil quand même général, donc on peut espérer que les législations suivent, puisque on a beaucoup parlé de techniques juridiques ici, mais il faut pas oublier que c'est quand même le politique qui fait le droit. Et que toutes les juridictions dont on parlait ne sont pas effectivement insensibles non plus à la pression, y compris populaire. Et pour le cas de la CEDH, pour le cas d'autres institutions comme le Conseil constitutionnel, c'est aussi le politique qui choisit les membres, donc les juges à la CEDH, les membres du Conseil constitutionnel. Et donc une évolution politique permet aussi...
Pardonnez-moi, je tiens à revenir sur ce que vous venez de dire. Les juges à la CEDH ne sont pas forcément justement des juges professionnels. Les membres du Conseil ne sont pas forcément des constitutionnalistes. Autrement dit, c'est purement politique. Et on se retrouve avec des gens en fait, qui parfois ne connaissent rien au droit et qui se retrouvent jugés. Autrement dit, qui jugent purement en fonction d'idéologie et non pas parce qu'ils connaissent par cœur la philosophie du droit et encore moins les différents codes civils des différents États membres.
Oui, pour être juge à la CEDH, il faut un master de droit, et ensuite il faut être proposé par un gouvernement en fait. Donc c'est quand même une autorité politique qui nomme, mais on peut avoir un master de droit et avoir fait toute sa carrière dans une ONG, comme c'est le cas de certains juges, et des juges qui, à mon avis, influencent la Cour dans pas forcément correctement. Pareil pour le Conseil constitutionnel, il y a, vous savez, les autorités de nomination, le président de la République, les présidents des assemblées. Et là aussi, on l'a vu dans les différents débats, notamment avec le choix de Richard Ferrand aussi, c'est pas la compétence en droit constitutionnel qui compte le plus. En tout cas, c'est pas un prérequis. Donc du coup, effectivement, il faut pas se dire que toutes les barrières juridiques dont on a parlé sont irréversibles. Au final, c'est quand même la politique qui fait le droit.
Merci beaucoup Nicolas Boer, merci beaucoup Alexandre Varro. Vous me parlez, vous avez fait à plusieurs reprises remarquer que vous n'étiez plus maître, enfin en tout cas qu'il fallait qu'on vous appelle autrement, de nous avoir accompagnés dans cette exploration de ce que sera peut-être le visage de l'Europe demain, un visage où on pourra bien sûr être européen, mais on pourra surtout expulser les étrangers condamnés pour des crimes graves et qui pour le moment ne peuvent pas être expulsés. Voilà, c'est un avenir qu'on verra, j'espère. Et demain, en tout cas, vous pourrez reparler de tout ça dans Restons Courtois, non pas avec Nicolas Boer, merci beaucoup d'avoir été là, non pas avec Maître Varro, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, mais avec Arthur de Vatrigan dans le nouveau Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.